ne veut pas te dire où se trouve le QG des féministas.
Oui, évidemment. Tu es une femme.
Ok, on va être très ferme.
Nous appelons toutes les femmes de la galaxie à joindre notre mouvement de lutte.
Putain les FN.
Nous avons aussi besoin d'un porte-parole qui sache écrire.
Les hommes étaient logiques et les femmes lubriques.
Salope!
Aujourd'hui, on va vous parler un peu des bêtes sauvages, ainsi que de leur représentation à travers la main de l'homme. Des premières peintures rupestres retrouvées dans les grottes préhistoriques jusqu'aux interrogations artistiques contemporaines, en passant par la mythologie grecque, la symbolique liée aux bêtes féroces et à la sauvagerie fascine l'humanité depuis la nuit des temps. Telles d'étranges images venant d'un miroir déformant, ces représentations nous confrontent à eux, poil contre peau, à cette nature profonde, sauvage, exerçant sur nous attraction et répulsion. Forçant le trait de nos incohérences, contrastant les trop branlantes différences que nous érigeons comme des frontières bien nettes entre la nature de l'homme et la nature animale, ou entre la civilisation et le chaos, la sauvagerie nous est bel et bien face au bouillonnement de nos instincts.
En parlant de bouillonnement d'instinct animal, et de glissement de rôle entre les êtres civilisés, les enfants, les animaux, les sauvages, les fous, les masques, ça te rappelle rien d'actualité où justement les représentations animales, réelles et imaginaires sont à l'honneur? Non. Le carnaval des enfants sauvages de Saint-Afrique approchant, je sais pas, mais ça me paraît bien dans le thème quand même.
Tout à fait. Alors là, normalement, vous vous dites mais en principe, plutôt des fans, c'est un duo de meufs, toujours les mêmes. Jusque-là, tout va bien, c'est que vous suivez. Mais voilà, ma chère collègue a eu un empêchement. Alors vous entendrez la tendre voix d'Antoine qui se trouvait par là, par hasard aujourd'hui, et qui donc la remplace de manière tout à fait inopinée, sans trop savoir de quoi il s'agit. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Donc merci Antoine.
Avec plaisir.
Reprenons. Alors oui, exact. Le rendez-vous du carnaval de Saint-Afrique, c'est le 16 mars, et c'est dans un mois. Alors, vu que la prochaine émission tombe pile le 16 mars aussi, pour une fois, on avait anticipé. On s'est dit que c'était l'occasion de chercher de quoi s'inspirer pour trouver des déguisements empreints d'histoires de ouf à raconter à tous ceux qui te demandent « Mais t'es déguisé en quoi, toi ?» Il faut dire que ma collègue y avait eu droit l'année dernière grâce à son déguisement de panda. C'est trop bien, je peux me moquer d'elle, il se passe rien.
En même temps, c'est vrai que les pandas sont des animaux à la fois tendres et capables d'une rage destructrice incommensurable.
Ok, bon bah on y va, on va s'y atteler tout de suite à trouver des idées, hein.
Du besoin nourricier très terre à terre de la bête sauvage, en passant par ses interprétations symboliques, totémiques, magiques, psychologiques ou esthétiques, petit tour d'horizon sans frontières ni époque, ni forcément de références carnavalesques, avec de petites fables et histoires marrantes qu'on a trouvées pour étendre notre imaginaire avec vous.
Alors pour commencer, devinez quelle est la plus ancienne activité humaine qui a duré des centaines de milliers d'années. Non, ce n'est pas le jeu des 1000 euros, ce serait un peu facile. Alors ? Et la chasse, évidemment. Derrière la capture du gibier, l'homme affirme ses qualités viriles, assure sa survie face à l'hostilité de son milieu naturel et se positionne en prédateur. Elle a toujours été marquée par des pratiques religieuses qui vont des rituels magiques les plus archaïques aux plus ardentes métaphores spirituelles. Les animaux peints sur les parois des cavernes préhistoriques étaient vénérés comme source de vie et supposés favoriser la chasse. Leur représentation était à la fois une forme d'adoration de l'animal et une emprise magique sur sa force. Artémis, déesse de la chasse dans la mythologie grecque, tue les animaux ainsi que les hommes qui se livrent à leurs instincts sauvages. Elle symbolise la lutte intérieure contre les instincts, la violence, la brutalité, la sauvagerie quoi. Elle chasse plus la bestialité que la bête. Bref, elle nous a plu, quoi. On a choisi de vous raconter l'histoire de sa rencontre avec Actéon.
Non loin était un vallon couronné de pins et de cyprès. On le nomme Gargaphie. et il est consacré à Diane, déesse des forêts. Dans le fond de ce vallon est une grotte silencieuse et sombre qui n'est point l'ouvrage de l'art. À droite coule une source vive et son onde serpente et murmure sur un lit de gazon. C'est dans ces limpides eaux que la déesse, fatiguée de la chasse, aime à baigner ses modestes attraits. Elle arrive dans cette retraite solitaire. Elle remet son javelot, son carquois et son arc détendu à celle de ses nymphes qui est chargée du soin de les garder. Des nymphes tressent et nouent les cheveux épars de la déesse pendant que les siens flottent encore sur son sein. Tandis que Diane se baigne dans la fontaine de Gargaphi, Actéon, errant d'un pas incertain dans ce bocage qui lui est inconnu, arrive dans l'enceinte sacrée, entraîné par le destin qui le conduit. À peine est-il entré dans la grotte où coule une onde fugitive que les nymphes, l'apercevant, frémissent de paraître nus, frappent leurs seins, font retentir la forêt de leurs cris et s'empressent autour de la déesse pour la dérober à ses yeux indiscrets. Mais, plus grande que ses compagnes, la déesse s'élevait au-dessus d'elle, telle que sur le soir un nuage se colore des feux du soleil qui descend sur l'horizon, ou telle que brille au matin l'incarnat de l'aurore naissante, telle a rougi le teint de Diane exposé sans voile au regard d'un mortel. Elle s'arme de l'onde qui coule sous ses yeux, et jetant au front d'Actéon cette onde vengeresse, elle prononce ces mots, présage d'un malheur prochain.
« Va maintenant !» Et oublie que tu as vu Diane dans le bain. Si tu le peux, j'y consens. Soudain, sur la tête du prince, s'élève un bois rameux. Son cou s'allonge, ses oreilles se dressent en pointe, ses mains sont des pieds, ses bras des jambes effilées, et tout son corps se couvre d'une peau tachetée. À ces changements rapides, la déesse ajoute la crainte. Il fuit, et dans sa course, il s'étonne de sa légèreté. À peine dans une eau limpide a-t-il vu sa nouvelle figure. « Malheureux que je suis !» voulait-il s'écrier. Mais il n'a plus de voix. Il gémit et ce fut son langage. De longs pleurs coulaient sur ses joues, qui n'ont plus leur forme première. Hélas, il n'avait de l'homme conservé que la raison. Que fera cet infortuné? Retournera-t-il au palais de ses pères? La honte l'en empêche. Ira-t-il se cacher dans les forêts? La crainte le retient. Tandis qu'il délibère, ses chiens l'ont aperçu. Cette meute, emporté par l'ardeur de la proie, poursuit Actéon et s'élance à travers les montagnes, à travers les rochers escarpés où s'envoie. Actéon fuit, poursuivi dans ces mêmes lieux où tant de fois il a poursuivi les hôtes des forêts. Hélas, lui-même il fuit ses fidèles compagnons. Il voudrait leur crier
« Je suis Actéon, reconnaissez votre maître !» Mais il ne peut plus faire entendre sa voix. Cependant, d'innombrables abois font résonner les airs. Tandis qu'ils arrêtent le malheureux Actéon, la meute arrive, fonce sur lui, le déchire, et bientôt, sur tout son corps, il ne reste aucune place à de nouvelles blessures. Il gémit, et les sons plaintifs qu'il fait entendre s'il diffère de la voix de l'homme ne ressemblent pas non plus à celle du cerf. Il remplit de ses cris ces lieux qu'il a tant de fois parcourus, et tel qu'un suppliant, fléchissant les genoux, mais ne pouvant tendre ses bras, il tourne en silence autour de lui, sa tête languissante. Cependant, ses compagnons, ignorant son triste destin, excitent la meute par leurs cris accoutumés. Ils cherchent Actéon, et le croyant éloigné de ces lieux, ils l'appellent à l'envi, et les bois retentissent de son nom. L'infortuné retourne la tête. On se plaignait de son absence, on regrettait qu'il ne pût jouir du spectacle du cerf à ses derniers abois. Il n'est que trop présent. Il voudrait ne pas l'être, il voudrait être témoin et non victime. Mais ses chiens l'environnent, ils enfoncent leurs dents cruelles dans tout son corps et déchirent leur maître caché sous la forme d'un cerf. Diane, enfin, ne se crut vengée que lorsque, par tant de blessures, l'affreux trépas eut terminé ses jours.
Bon, ça pose l'ambiance. Si la salle de bain ne ferme plus à clé, messieurs, vérifiez toujours qu'il n'y ait personne à l'intérieur avant d'ouvrir la porte. Ou bien vous pourriez le regretter.
Longtemps, les animaux furent sujets d'offrandes, de rites sacrificiels ou de pratiques divinatoires. Ils tenaient lieu d'intermédiaire entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible. C'est d'ailleurs également pour ces raisons qu'il existe autant de mythes animaux sur l'origine du monde. Ce sont des mythes dits étiologiques. Ils cherchent à expliquer un phénomène naturel. En voici un exemple dans la culture des aborigènes d'Australie.
Le temps du rêve explique les origines de leur monde, de l'Australie et de ses habitants. Selon leur tradition, des créatures géantes comme le serpent arc-en-ciel sont sorties de la terre, de la mer ou du ciel, et ont créé la vie et les paysages australiens. Leurs corps géants ont créé des fleuves et des chaînes de montagnes, mais leur esprit est resté dans la terre, rendant la terre elle-même sacrée au peuple indigène.
L'animal totémique est aussi récurrent dans les cultures chamaniques, indiens d'Amérique, maya, inuit. Il signifie « compagnon de clan », ancêtre protecteur ou frère secourable. Il symbolise les différents esprits protecteurs qui interviennent dans les mythes du groupe concerné. Cette imagerie animale renvoie au plus profond de l'inconscient et de la spiritualité. Dans la culture amérindienne, lorsque les jeunes gens voulaient connaître leur animal totem, ils partaient en quête de vision. Ils devaient passer 4 jours et 4 nuits dans les montagnes ou dans la forêt sans manger ni boire. Pendant ce temps de jeûne, ils priaient et demandaient au grand esprit de bien vouloir leur envoyer une vision. Un animal apparaissait souvent de façon très réelle à celui qui le cherchait et devenait son totem. Il devait apporter sa protection, son courage et sa sagesse tout au long de la vie de cette personne qui s'attribuait ses caractéristiques.
Chez les Indiens des plaines, surtout chez les Sioux et les Chippewas, les pouvoirs de l'ours étaient souvent invoqués avant d'aller à la guerre. Les hommes peignaient sur leur visage des marques qui ressemblaient à des griffes d'ours ou ils apportaient avec eux un couteau à double lame dont la poignée était sculptée dans la mâchoire d'un ours. Les fables amérindiennes, à l'origine transmises oralement pour apprendre les règles de vie et les bases de la philosophie propre à chaque nation, ont souvent été mal traduites par les Blancs qui ont tenté de les recueillir. Elles échappaient à sa psychologie et heurtaient ses convictions. Il en reste tout de même quelques bribes, quoique sûrement dénaturées et hors contexte. Voici la fable du loup et du raton laveur, tirée de 1000 ans de contes indiens d'Amérique du Nord.
Un raton laveur se promenait en chemin et rencontra un loup qui lui dit « Je n'ai rien mangé depuis 3 soleils. N'aurais-tu pas quelques restes à partager avec ton ami ?»«
Depuis quand es-tu l'ami des ratons laveurs ?»«
Je l'ai toujours été, » répondit le loup. « Jamais je n'ai croqué un de tes congénères sans sa permission. » Le raton laveur retint un rire moqueur. « Dans ce cas, je vais t'aider. J'ai là quelque chose à manger, mais je ne sais pas si tu apprécieras cette nourriture. » « Je suis affamé et je dévorerai n'importe quoi. » Fort de cette confidence, le raton laveur enveloppa 3 petites boules noires dans une feuille d'érable et lui tendit le tout. Le loup avala le contenant et le contenu et déclara d'un air satisfait « Je n'ai jamais rien goûté d'aussi fameux. » Le raton laveur sourit et chanta « J'ai fait manger ma crotte au loup, j'ai fait manger ma crotte au loup. » « Que fredonnes-tu ainsi entre tes dents ?» demanda le loup. « Rien de très important, je disais qu'il fait beau aujourd'hui. » Et les deux animaux s'en allèrent de concert. Un peu plus loin, ils arrivèrent près d'un grand arbre. Alors le raton chanta de nouveau, mais à haute et intelligible voix.
« J'ai fait manger ma crotte au loup, le loup a mangé ma crotte. »«
Quelle cochonnerie !» s'écria le loup en crachant à terre. « Puisqu'il en est ainsi, je vais te manger toi aussi !» Il voulut se jeter sur le raton laveur, mais celui-ci grimpa sur une autre branche de l'arbre. « Attrape-moi si tu le peux !» Le loup dressa le museau. « Qu'à cela ne tienne, j'attendrai que tu redescendes. Il te faudra bien quitter cet arbre si tu ne veux pas mourir de faim. » Le loup alluma un feu et se coucha à côté. Il pensa. Le raton va s'endormir et il tombera de sa branche. Le raton laveur songea de son côté. Le loup va s'endormir et alors je pourrai m'enfuir en toute sécurité. Au bout d'un moment, le loup parut s'assoupir. Le raton laveur jeta un morceau d'écorce dans sa direction. Le loup bondit et mordit dedans. « Pouah ! Ce n'est pas mon ami le raton !» Retournons auprès du feu et attendons encore. Et il reprit la pose. Le raton laveur attendit plus longtemps avant de jeter un nouveau bout d'écorce. Le loup sauta dessus une nouvelle fois et s'écria. « Ce n'est guère aimable de vouloir me tromper !» Le raton laveur répondit. « Je n'avais pas l'intention de t'abuser. J'ai remué et un morceau de branche est tombé. » Le loup bougonna et se recoucha près de son feu. Mais cette fois, la douce chaleur l'engourdit et il s'endormit pour de bon. Le raton jeta un troisième morceau de bois. Le loup ne bougea pas. Alors le raton entreprit de descendre prudemment de son arbre. Arrivé en bas, il murmura. « Dors bien, mon petit frère loup. Pendant ce temps, ton repas s'éloigne de toi. » Puis il recouvrit les yeux du loup avec sa crotte et partit vers la rivière se laver les pattes. Lorsque le loup se réveilla, il ne put ouvrir les paupières. Il se dit « Ce doit être encore un coup du raton laveur. Je vais aller à la rivière pour me nettoyer les yeux. » Après avoir parcouru quelques pas, il se cogna contre un arbre. « Quelle espèce d'arbre es-tu » demanda-t-il.
« Je suis un érable. »
« La rivière est-elle loin d'ici ? Il te faut marcher droit devant toi. » Le loup continua sa course aveugle et heurta un autre arbre. « Quelle espèce d'arbre es-tu ? Je suis un hickory. La rivière est-elle loin d'ici ? Je pousse sur la colline qui la domine. Descends la pente et tu la trouveras. » Le loup descendit le terrain en pente. C'est alors qu'une troisième fois, il donna la tête contre un arbre. « Quelle sorte d'arbre es-tu, mon cousin ? Je suis un sycomore. Suis-je sur le chemin de la rivière ? Elle est devant toi. » Le loup reprit sa marche incertaine. Le raton regardait la scène en se retenant de rire. Il coupa une branche de saule et le planta dans le sol sur le chemin du loup. Ce dernier se cogna dedans et interrogea. « Quel genre d'arbre es-tu, mon oncle ?» Le raton laveur prit la voix du sol et répondit. « Je suis un saule. Que t'arrive-t-il, mon pauvre loup ?»«
Le raton laveur m'a joué un tour. Il m'a collé les yeux avec sa crotte. »«
Quel goujat !» s'indigna le raton. « Et que vas-tu faire maintenant que te voilà aveugle ?»
« Me laver les yeux dans la rivière, ensuite je retournerai et je le dévorerai. Il ne mérite pas un meilleur sort.
Veux-tu m'aider ?
Avec le plus grand plaisir. Que puis-je faire pour toi ?
Dis-moi où est la rivière.
Ce n'est guère difficile. Tu en es tout près. Marche et tu y arriveras. »
Mis en confiance par ce nouvel allié, le loup trottina vers la berge et entra dans le courant.
« Dis-moi, mon ami seul, jusqu'où est-ce que j'ai de l'eau ?
Jusqu'aux genoux. »
Le loup avança un peu plus. « Et maintenant ? « Jusqu'où en ai-je ?
Jusqu'au ventre. »
Quelques pas plus loin, il demanda encore. « Dis-moi, mon frère, jusqu'où en ai-je cette fois ?
Jusqu'au cou. Tu peux y aller sans crainte. Je te préviendrai quand il faudra t'arrêter. »
Le loup fit encore trois pas. Et cette fois, jusqu'où ? Mais il n'acheva pas sa phrase. L'eau lui entra dans la gueule et le loup se noya. Le sol interrogea alors le raton laveur.
« Pourquoi as-tu joué ce vilain tour au loup ?
Pour lui apprendre à être moins hypocrite, on n'appelle pas son ami celui que l'on veut dévorer.
Vous avez donc compris qu'en plus d'Artémis, il faut également vous méfier des mignons petits animaux qui parlent. Malgré leur apparente naïveté, ils finissent souvent par faire de vilaines farces, allant de la taquinerie jusqu'au meurtre de sang-froid.
En même temps, si vous commencez à entendre des petits animaux de la forêt parler, soit il faut arrêter le peyote de suite, trouver son animal totem ne doit pas empiéter sur la santé mentale, soit il est temps de se faire exorciser. Si, si, ça marche aussi.
Tiens, ça me rappelle les histoires du drac, ce personnage diabolique de la culture occitane. Il se transforme en animal, entre autres pour noyer les gens ou leur faire d'autres farces, parfois moins mortelles quand même. Il apparaît dans les carnavals d'ailleurs. Dans les récits traditionnels, il se montre parfois près des guets ou des ponts sous la forme d'un quadrupède qui cherche à précipiter dans l'eau le passant pour le faire périr sans confession. Il suffit généralement d'un signe de croix pour le conjurer. Ces récits qui nous parviennent font du drac le symbole du diable qui cherche à faire mourir ses victimes de manière inopinée et sans les secours de la religion. En voici un.
Il donne du mythe une interprétation naturaliste en rapport avec les dangers du fleuve en crue. Deux jeunes hommes voulaient traverser le Vior une nuit d'orage. Ils voient sur les rives de la rivière un cheval sellé et harnaché. Ils sautent dessus et s'engagent sur la rivière. Une fois au milieu, l'un d'eux est pris d'un doute. « Ma défunte mémé m'avait toujours recommandé, quand on devait passer le Vior après un orage, de faire le signe de la croix. » La bête alors se cabre et fait tomber ses cavaliers. « Si vous n'aviez pas fait le signe de la croix, je vous noyais tous les deux. »
Grand tes oreilles, c'est plutôt les veines sur Radio Sainte-Afrique.
Un autre exemple de ces farces. Au Masque à Bardès, plusieurs enfants virent un âne au bord du ruisseau. Ils montèrent sur son échine, tandis que la bête grandissait magiquement, jusqu'à atteindre une longueur et une hauteur monstrueuses pour les accueillir tous sur son dos. C'est à ce moment-là que la bête précipita les gamins dans l'eau. Le drague se changea alors en être humain pour narguer de l'autre rive ses victimes. La plupart des religions convoquent un important bestiaire. Des dieux à tête d'animaux inspirent la crainte et le respect chez les Égyptiens. Les humains se réincarnent en animaux dans les religions bouddhistes et hindouistes. Ils sont partout dans les ornements, les peintures iconiques et les représentations chrétiennes. L'animal, en tant qu'archétype, représente les couches profondes de l'inconscient et de l'instinct. Les animaux sont des symboles des principes des forces cosmiques, matérielles ou spirituelles. L'imaginaire lié au bestiaire moyenâgeux ne pouvait pas nous passer sous le nez sans nous interpeller. Nous rappelant l'émission sur les sorcières, ces livres anciens abordent le thème religieux avec mysticisme à travers des représentations animales.
De manière générale, le Moyen-Âge européen correspond à une dépréciation de la plupart des animaux sous l'influence des autorités chrétiennes à travers l'interdiction des cultes et des rituels païens liés à ces derniers. Les traditions païennes célébraient les saisons, la nature, la position des astres et les animaux et furent peu à peu remplacées par des fêtes chrétiennes célébrant les saints dont les animaux sont pourtant aussi les représentants. Les bestiaires qui traitent des attributs moraux des animaux et de leur fonction symbolique religieuse montre cette ambivalence. L'animal, la bête qui est en nous et a tant embarrassé le moraliste judéo-chrétien, c'est l'ensemble des forces profondes qui nous animent, et en premier lieu la libido. Dès le Moyen-Âge, en argot, l'animal, la bête, le cheval, c'est le pénis, et c'est parfois aussi la femme, incarnant la partie animale, sinon satanique, de l'homme. La profusion des symboles animaux dans les religions et les arts de tous les temps ne souligne pas seulement l'importance du symbole. Elle montre aussi à quel point il est important pour l'homme d'intégrer dans sa vie le contenu psychique du symbole, c'est-à-dire l'instinct.
À la base, un bestiaire désigne un manuscrit du Moyen-Âge regroupant des fables et des moralités sur les bêtes, animaux réels ou imaginaires. Ces œuvres reflètent la conviction que le monde est un livre dans lequel Dieu a écrit et que tout pouvait trouver une explication et des correspondances. Les animaux étaient ainsi mis en relation avec la religion. Les bestiaires du Moyen-Âge dérivent tous plus ou moins directement d'un ouvrage grec du IIe siècle après Jésus-Christ, le Physiologus. L'auteur inconnu cherche en premier lieu à associer à chaque animal, qu'il soit réel ou légendaire, une signification chrétienne. Traduit en latin dès le IVe siècle, le Physiologus a exercé une influence déterminante sur toute la chrétienté. Par le biais de nombreux manuscrits souvent illustrés, les monstres de l'Orient et de l'Antiquité gréco-romaine ont ainsi pénétré l'imaginaire des hommes du Moyen-Âge. La plupart de ces illustrations, dessins, enluminures et gravures, vous plongent dans un autre temps, un imaginaire lointain d'animaux hybrides pourtant encore si présents dans notre culture moderne.
Dragons tentaculaires, oiseaux moqueurs, lions ailés, chèvres à tête d'homme et bien plus encore. Tout de suite, la parole à notre expert en hybride imaginaire, le petit Milo.
Il a 4 pics, très très longs qui vont jusqu'au ciel. Ça loue. Ça et 2 yeux noirs. Et il a un rouge ici et un noir ici. C'est dans, il a des dents aussi pointues. Il griffe parce que ça loue. Ils ont des pattes avec des petites griffes. Ah oui, on n'a pas dit la couleur, il est gris le loup. Je vais redire. Il a un métal, il y a quelque chose en métal. Et c'est un animal en métal qui est noir et rouge. Un métal loup. Sauf qu'il n'a pas des os blancs, il a des os rouges. Mais sauf qu'ils étaient blancs avant, maintenant ils ont... Maintenant, on peut le peindre en rouge comme ça, il mange et il va voir. Oh, mais c'est de la peinture! Et il meurt. Dès qu'il mange la peinture, là, il meurt. Oui, parce que ça, il peut mourir, il poursuit quelqu'un, il lui donne un os avec la peinture, et après, il est mort. Sauf qu'après, s'il est mort, il se transforme en plus géant. Vu qu'il mange un champignon géant, il devient plus géant. Et après, il arrive à faire bam, bam, bam. Il fait des gros résonnes et il crache plein de feu. Alors, ça s'appelle un dragon. C'est très très grand et c'est tout rouge, il crache du feu. Il crache du feu, sauf que les dragons ils sont à côté d'un château et ils crachent du feu pour essayer de tuer les princes et les chevaliers et les guerriers parce qu'ils sont très forts. Alors ils peuvent lui donner un coup d'épée dans la gorge, un coup de massue, un coup de lance, un coup d'épée et après un bouclier pointu pierre et ça lui fait trop mal. Ils veulent pas du dragon chez eux parce qu'il est trop méchant. Il mange un champignon tout rouge et après il devient très méchant. Mais dès qu'il voit une couleur bleue, il devient tout bleu et il est gentil. Et après il retourne à sa maison. Des ours, des girafes, des loups, des lions, des lionceaux, des lionnes, des éléphants, des éléphantaux, des éléphantes. Je connais plein d'animaux imaginaires.
Vous sentez vous percer quelques petits crocs bien pointus, pousser quelques fines griffes acérées, votre ouïe s'aiguise-t-elle au son de Radio Saint-Afrique ? C'est bon signe. Continuons de glisser à vos oreilles d'inspirantes histoires d'animaux sauvages en allant chercher du côté des mythes, contes et légendes. Ceux-ci relatent phénomènes naturels ou lieux géographiques sur un mode métaphorique ou une fonction sociale forte, mais rendent aussi compte de la complexité de la pensée humaine, notamment en psychanalyse. Il constitue un moyen métaphorique ou analogique d'interpréter le monde ou la complexité du monde humain. Cette fonction interprétative a donné lieu à tout un bestiaire monstrueux et fantastique.
Voici un extrait du prologue du roman de Renard. Seigneur, vous avez assurément entendu conter bien des histoires, nombre de fables et chansons de gestes. Mais vous ne connaissez pas la grande guerre qui ne finira jamais de Renard et de son compère Issegrain. Si vous voulez, je vous dirai comment la querelle prit naissance et avant tout comment vinrent au monde les deux barons. Un jour, j'ouvris une armoire secrète et j'eus le bonheur d'y trouver un livre qui traitoit de la chasse. Une grande lettre vermeille arrêta mes yeux. C'est toi le commencement de la vie de Renard. Si je ne la vois pas lue, j'aurai pris pour un homme ivre celui qui me l'eût conté. Mais on doit du respect à l'écriture, et, vous le savez, celui qui n'a pas confiance au livre est en danger de mauvaise fin. Le livre nous dit donc que le bon Dieu, après avoir puni nos premiers parents comme il le méritoit, et dès qu'ils furent chassés du paradis, eut pitié de leur sort. Il mit une baguette entre les mains d'Adam, et lui dit que pour obtenir ce qui lui conviendra le mieux, il suffisoit d'en frapper la mer. Adam ne tarda pas à faire l'épreuve. Il étendit la baguette sur la grande eau salée, et soudain, il en vit sortir une brebis. « Voilà, se dit-il, voilà qui est bien. La brebis restera près de nous. Nous en aurons de la laine, des fromages et du lait. » Ève, à l'aspect de la brebis, souhaita quelque chose de mieux. Deux brebis, pensa-t-elle, vaudront mieux qu'une. Elle pria donc son époux de la laisser frapper à son tour. Adam, nous le savons pour notre malheur, ne pouvait rien refuser à sa femme. Ève reçut de lui la baguette et l'étendit sur les flots. Aussitôt parut un méchant animal, un loup, qui s'élançant sur la brebis, l'emporta vers la forêt voisine. Au cri douloureux d'Ève, Adam reprit la baguette. Il frappe de nouveau la mère. Un chien s'élance à la poursuite du loup, puis revient, ramenant la brebis déjà sanglante. Grande alors fut la joie de nos premiers parents. Chiens et brebis, dit le livre, ne peuvent vivre sans la compagnie de l'homme. Et toutes les fois qu'Adam et Ève firent usage de la baguette, de nouveaux animaux sortirent de la mer. Mais avec cette différence qu'Adam façonne naître les bêtes apprivoisées, et Ève, les animaux sauvages qui tous, comme le loup, prenoient le chemin des bois.
Voilà, on pourrait étendre, pourquoi pas, en traitant aussi d'histoires plus récentes, parlant de la mise à mal des relations entre hommes et animaux, de l'animal comme terrain d'intervention et d'investigation, ou encore d'outils de production et de distraction. Pourquoi pas aussi le traitement plus approfondi des mythes dans une société. Comment se renouvellent-ils? Qui les alimente? Nous? Vous? Toi? On peut pas tout faire, mais ces sujets restent des portes ouvertes fascinantes à travers lesquelles nous ne nous priverons pas de jeter un coup d'œil de temps en temps au fil de Plutôt des Fèdes.
Voilà pour aujourd'hui. C'est pas le tout, mais faut se préparer avant d'aller guincher au carnaval maintenant qu'on a fait le plein d'idées.
Eh ouais. Et si vous voulez écouter ou réécouter nos émissions, rendez-vous sur le site de Radio Saint-Af, www.radiosaintafrique.com, dans la rubrique Nos émissions, Plutôt des Fèdes. En attendant, on vous dit à la prochaine. Bye bye.
Bye bye.